histoire avec Daniel Daou.
Et c'est une première pour lui. Disons qu'on lui a pas mis ça très, très facile, alors que M. Daou, qui est avec nous aujourd'hui, est devant public. Alors, un gros merci pour la présence et le courage.
C'est un grand plaisir de venir collaborer à vos émissions.
Eh bien, un grand merci à vous. Et écoutez, vous vouliez nous parler ce matin, Daniel, du contrat des institutrices en 1923. Alors, on remonte 101 ans en arrière, en fait. Là.
Absolument. Oui, absolument. C'est que depuis un bon moment, un contrat de l'institutrice qui daterait de 1923 circule sur Facebook et sur certains sites web.
Okay.
Est-ce un document authentique? On va regarder ça. Je vais vous énumérer les clauses.
Parfait.
Le contrat de l'institutrice en 1923, en vertu de la présente entente entre mademoiselle, institutrice, et le conseil de l'éducation de l'école, mademoiselle accepte d'enseigner à l'école pendant une période de 8 mois, commençant le 1er septembre 1923. Le conseil de l'éducation convient de verser à mademoiselle une somme de 75 $ par mois. Mademoiselle se conformera aux conditions suivantes. 1. Ne pas se marier, sans quoi le présent contrat sera annulé sur le champ. 2. Ne pas fréquenter d'hommes. 3. Ne pas sortir de la maison entre 8 heures du soir et 6 heures du matin, sauf pour des raisons liées à l'école. 4. Ne pas traîner dans les bars laitiers du centre-ville. 5. Ne pas quitter la ville sans avoir reçu la permission du président du conseil scolaire. 6. Ne pas fumer de cigarettes, sans quoi le présent contrat sera annulé sur le champ. Ne pas boire de bière, de whisky ou de vin, sans quoi le présent contrat sera annulé sur le champ. 7. 8. Ne pas monter dans une voiture tirée par un cheval ou une automobile avec un homme autre que son frère ou son père. 9. Ne pas porter de couleur vive. 10. Porter au moins 2 jupons. 11. Ne pas se teindre les cheveux ni porter de maquillage. 12. Ne pas porter de robe plus courte que 2 pouces au-dessus du talon. 13. Garder la maison de l'école propre, balayer les planchers, la classe au moins 1 fois par jour, frotter le plancher avec de l'eau chaude et du savon au moins 1 fois par semaine, laver les tableaux au moins 1 fois par jour. 14. Allumer le feu du poêle à bois à 7 heures pour que la classe soit suffisamment chaude pour l'arrivée des enfants à 8 heures. Et sortir les cendres au moins 1 fois par jour.
Alors, on voit qu'aujourd'hui, on se bat pour des meilleures conditions de travail, mais c'est pas d'hier, là. C'était pas comme super jojo étant...
Oui, absolument pas. On constate que le contrat contient une liste d'interdictions assez stricte. L'institutrice n'aurait pas le droit de se marier, de fréquenter un homme, de fumer, ni même de traîner au bar laitier. Ces instructions nous semblent choquantes aujourd'hui, et la popularité du texte le montre très bien. Mais s'agit-il d'un vrai contrat ou...
Ou un faux
contrat. Mm-hmm. Ce n'est pas un vrai contrat, okay. C'est un faux.
Okay.
Le document pourrait être authentique au premier coup d'œil, mais le papier et sa lie semblent jaunis par le temps, mais un simple examen de surface peut déjà nous mettre la puce à l'oreille. La fonte des caractères et la mise en page paraissent, par exemple, un peu modernes pour 1923.
OK.
Le contrat ne prévoit pas non plus aucun espace pour la signature des commettants. Voilà qui est quand même suspect. Une petite recherche sur le web nous a permis de conclure qu'il s'agit en fait d'une traduction d'un texte original en anglais.
OK.
Le document n'est pas authentique, c'est manifeste. Mais est-il crédible sur le plan historique? Décrit-il la justesse des tâches qu'on exigeait des institutrices québécoises des années 1920? Oui et non.
OK.
En fouillant dans certaines archives, on a retrouvé quelques vraies copies de contrats du même genre, datant de 1842 à 1818. 1842 à 1918. Mm-hmm. Passons donc en revue certains points mentionnés et comparons. La durée du contrat et du salaire. Dans le Québec des années 1920, les termes d'un contrat entre un syndic d'école ou des commissaires une enseignante sont réglementés par le Code scolaire. En cette loi, il y a des spécifications qui contredisent les termes du document. Par exemple, l'année scolaire débute le 1er juillet et se termine le 30 juin. Généralement, on fait aussi mention du salaire annuel. Mm-hmm. Ici, l'année scolaire dure 8 mois et on ne précise pas si le salaire continuera d'être versé au cours de l'été. En admettant que l'institutrice reçoive 8 mois de salaire, elle gagnerait en tout 600 $. Un montant qui paraît fabulique aujourd'hui, mais pour 1923, ce n'est pas exceptionnel. Mm-hmm. Le salaire moyen des Canadiennes est alors de 577 $ contre 920 pour les Canadiens.
OK. Ça n'a pas changé beaucoup.
C'est ça. Or, on sait que les institutrices de l'époque étaient sous-payées, même en les comparant aux autres travailleuses. Mm. une réalité qui était déjà condamnée à l'époque. En 1918-1919, il y avait encore 2619 institutrices qui ne recevaient que 150 à 200 $ en ne payant que 15, 17, 18 piastres par mois. Les commissaires d'école commettaient une erreur profonde. Ce sont des salaires pitoyables qui sont la cause principale du changement fréquent des institutrices. Dans le Québec des années 20, les termes d'un contrat entre un syndic d'école et les commissaires et une enseignante sont réglementés par le Code scolaire. Et cette loi a des spécifications qui contredisent les termes du document qui circule actuellement sur Facebook. Le célibat et les institutrices et leur moralité. Les premières conditions du faux contrat est sans appel. Ne pas se marier, sans quoi le présent contrat sera annulé sur le champ. Est-ce crédible ou non? Selon les historiennes Michel Dumont et André Dufour, les institutrices québécoises du début du siècle qui souhaitaient se marier ne pouvaient généralement pas conserver leurs emplois.
Oh, ouais.
Mais cette règle n'est pas appliquée dans toutes les régions ni à toutes les époques. En 1891, il y a par exemple encore 10 % des femmes mariées parmi les institutrices. La règle est appliquée de plus en plus rigoureusement au début du 20e siècle et surtout en milieu urbain. Dans plusieurs écoles du Québec, il faut attendre les années 30 pour que des femmes mariées puissent à nouveau enseigner aux enfants. Une lettre du surintendant de l'instruction publique en 1932 confirme que la flexibilité est de retour. Il y affirme à un curé que le mariage ne rompt pas l'engagement de l'institutrice. Cette condition ne vaut évidemment que pour les femmes. Un instituteur qui prend épouse est rarement ennuyé. Il peut au contraire compter sur une augmentation de salaire.
Ah, bon,
Dieu,
oui. Ben oui, hein? Pour l'aider avec sa famille. C'est bien bon, ça.
Le Code scolaire prévoit une révocation du brevet aux institutrices et aux instituteurs qui adoptent un comportement immoral. Bien évidemment, pour les institutrices, fréquenter un homme hors mariage est un exemple typique de comportement immoral dans le Québec des années 20. Ne pas fréquenter d'hommes correspond donc tout à fait aux normes sociales de l'époque. En revanche, ne pas monter dans une voiture avec un homme autre que son frère ou son père, nous sommes légèrement abusifs. Toutefois, cette accusation peut faire partie d'un tout plus scandaleux. Comme dans le cas de Séraphine Perrault, enseignante à Deschambault-Grondines, près de Québec, qui aurait passé une soirée de 1888 à se promener en voiture avec un homme qu'elle aurait ensuite invité à la maison d'école. Notons que l'interdiction de recevoir des invités dans le logis en fonction peut faire l'objet d'une clause de contrat à cette époque. La consommation d'alcool. En 1873, un curé porte plainte contre un instituteur de Lance au Griffon, qui aurait eu l'habitude de lever le coude un peu trop haut. Quand elle est prouvée, cette allégation peut mener à des conséquences graves, puisque la loi stipule clairement que l'ivrognerie peut entraîner la révocation du brevet. La consommation d'alcool, sans être absolument proscrite, ne doit être abusive, ne pas boire de bière, de whisky ou de vin, et donc à prendre avec un grain de sel. Dans le climat prohibitionniste nord-américain des années 20, il apparaît tout à fait à propos. Or, le Québec de l'époque est plus tempérant que prohibitionniste. Fréquenter un débit de boisson, même légal, semble cependant hors de question pendant longtemps pour l'institutrice.
OK. Donc, en ce moment, bon, okay, le contrat n'était pas 100% véridique, mais il y a certaines choses qui reviennent quand même.
Oui, absolument. Il y a des nuances, comme on dit.
C'est ça.
L'entretien de l'école. Le Code scolaire ne prévoit pas, contrairement à la condition du faux contrat, un nettoyage en profondeur du plancher à chaque semaine, mais bien à tous les deux mois. Le balai doit être passé quotidiennement. Il est également spécifié que le poêle doit être chauffé jusqu'à ce que la salle atteigne une température de 65 degrés Fahrenheit en saison froide. Le feu doit être allumé une heure avant le début des classes. Il est à noter que le bois de chauffage dans les écoles de rang n'est pas toujours fourni gratuitement. Assez souvent, l'institutrice doit se le procurer elle-même.
Aïe, aïe, OK.
Conclusion, le Code scolaire ne prévoit pas à l'époque aucun salaire fixe et une bonne partie des règles les plus spécifiques sont déterminées par les commissaires à l'échelle de la municipalité scolaire ou par le curé local qui pourrait réunir les institutrices de la paroisse et leur donner des directives sur, par exemple, la longueur de leur jupe. Quelques décennies avant l'application des normes gouvernementales dans la réaction des contrats d'embauche d'enseignants, on peut d'abord préciser que l'institutrice devra se conformer aux avis et directions du dit curé dans la manière d'exercer et dans le gouvernement de la dite école. On laisse donc la création d'une bonne partie des règles des règles à l'arbitraire des autorités locales, et celles-ci peuvent varier énormément. Au début du 20e siècle, on assume que l'institutrice formée à l'école normale et détenant son brevet sait déjà comment bien se tenir. Les manuels pédagogiques de l'époque, tels que le traité pédagogique de théorique et pratique de Mgr François-Xavier Ross, donnent d'ailleurs de sévères recommandations morales aux futures institutrices. Elle concerne tant la piété religieuse que l'habillement.
Mais si on fait un parallèle avec les jours d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même des choses. Aujourd'hui, les gens n'ont pas nécessairement l'air climatisé dans les classes. Les professeurs doivent être très, très, très créatifs pour assurer le confort de leurs étudiants. Il fallait acheter le bois dans ce temps-là. C'est que je vois des recoupements. Monsieur Daou, le temps nous presse un petit peu, mais ça donne le ton à ce que va être votre chronique. Vous êtes, vous nous l'avez dit, fanatique d'histoire, mais surtout de l'histoire de la vallée. Et il y a tellement d'histoires dans la vallée avec l'époque des draveurs et ainsi de suite. Alors, ça va être certainement passionnant de vous suivre tout au long de l'année. Puis, et puis, il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on,
voit
sur
Facebook.
Les internets. C'est ça.
Parfait. Mais il me reste un petit paragraphe.
Oui, allez-y.
Les règles changent également selon la provenance géographique et la confession religieuse. Le contrat d'embauche d'une institutrice du Missouri n'avait pas grand-chose à voir avec celui qui devait signer son homologue de Maniwaki. Au Québec, celui d'une institutrice anglophone protestante pouvait également comporter des différences notables. Son salaire risquait, par exemple, d'être le plus élevé. Notamment, en payant que 15, 17 ou 18 piastres par mois, les commissaires de l'école commettent une erreur profonde. Ces salaires sont pitoyables, ils sont la cause principale du changement fréquent des institutrices. OK, ça, je l'avais dit tantôt. La moyenne du salaire de l'Institut québécoise catholique était de 327 $ en 1923 pour l'année complète.
C'est quand même quelque chose. Ouais. Hein,
et je finirai ma chronique en disant que les sceptiques seront confondus.
Merci beaucoup, M. Daou. On vous retrouve dans quelques semaines. Un gros merci.
Merci.